Donc la fête de la science cette année, c'est autour des émotions. Donc c'est pour ça que j'ai le grand plaisir, Élodie Chaillou, de vous avoir ici avec moi pour parler des émotions des animaux. On va se demander, est-ce que les animaux ont des émotions? Est-ce qu'ils ressentent quelque chose? Alors tout d'abord, peut-être qu'on peut expliquer aux personnes qui sont ici et à nos futurs auditeurs que vous êtes donc une chercheuse et vous travaillez, je crois, sur le cerveau et les émotions des animaux. Alors est-ce que vous voulez nous en dire plus?
Bonjour à tous, merci Mélissa. Donc oui, je travaille sur le cerveau des animaux. J'essaie de comprendre les émotions qu'ils ressentent en étudiant leur comportement et l'organisation et le fonctionnement de leur cerveau.
Alors comment ça marche? Ça veut dire que à INRAE, puisque vous travaillez pour l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, voilà, ça veut dire que vous avez plein d'animaux là où vous travaillez. Quels animaux vous avez? Comment ça se passe?
Donc l'intérêt de cet Institut de Recherche pour les émotions est venu progressivement, et en particulier parce que on doit garantir le bien-être des animaux, quels qu'ils soient, en élevage, ou les animaux de compagnie, ou en expérimentation animale. Et dans le cadre des recherches qui sont menées à l'INRA, on s'intéresse aux émotions plutôt des animaux d'élevage. Et dans mon cas, c'est plutôt les moutons que j'étudie, même si dans le cadre d'études comparatives, je vais aller regarder ce qui se passe chez d'autres espèces.
Voilà, donc ça veut dire que vous avez peut-être plein de moutons à INRAE?
Il y en a beaucoup, je ne les étudie pas tous, et je m'intéresse notamment à la manière dont le cerveau se développe en fonction des conditions dans lesquelles ils sont élevés.
Donc c'est-à-dire que vous avez peut-être des appareils pour voir le cerveau des moutons?
Exactement. Donc pour étudier le cerveau, il existe plusieurs façons de faire. Et une des méthodes récemment accessibles, qu'on peut utiliser depuis peu, c'est ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM. Donc on a cette chance de pouvoir étudier le développement du cerveau des animaux avec ce type d'appareil. Et puis il y a d'autres méthodes dont je pourrais parler si ça vous intéresse.
Voilà, et donc, puisque notre question c'est les animaux ont-ils des émotions, on va peut-être tout d'abord se demander c'est quoi un animal? Parce que vous avez parlé des moutons, mais des animaux, il y en a plein. C'est quoi alors un animal?
Alors, je retournerai bien la question aux personnes présentes. Qu'est-ce qu'un animal? Nous sommes des animaux, les êtres humains, mais la définition de l'animal, en fait, elle n'est pas si simple et elle dépend un peu de qui répond à cette question. Et les biologistes, eux, ont toujours envie un peu de classer les êtres vivants, notamment. Donc, parmi les êtres vivants, il y a les petites cellules, c'est les bactéries, par exemple. Mais il y a aussi les végétaux et il y a les animaux. Et les animaux, on les distingue ensuite en fonction un peu des espèces. Alors nous sommes des mammifères, mais il y a aussi des poissons, des oiseaux, des insectes. Donc voilà, le règne animal est très divers. Et encore une fois, nous, on s'intéresse plutôt aux animaux d'élevage. Donc des poules, vous avez un petit jeu en bas là, qui est accessible. Les chevaux, les moutons, voilà.
Alors pourquoi c'est aussi difficile en fait de définir un animal? Parce que là il y a les classifications scientifiques, mais des fois c'est plus compliqué que ça de définir un animal.
Alors encore une fois, si on reste sur la question de la biologie, c'est l'anatomie en fait qui va nous aider. Et puis après, dans le langage courant, c'est aussi un petit peu l'attitude. Des fois on va dire oh là là, celui-là il s'est comporté comme un animal, ça c'est plutôt péjoratif, c'est plutôt négatif, parce qu'on sous-entend que l'animal n'est pas capable de se contrôler, par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu cette diversité de réponses qu'on peut avoir quand on considère l'animal. Mais dans notre cas, en lien avec les émotions, on va étudier que certains animaux, parce que les émotions nécessitent des processus mentaux. Et à partir de là, nous, dans nos études, on va restreindre un petit peu les animaux qu'on étudie.
Alors ça veut dire que tous les animaux n'ont pas les mêmes capacités à avoir des émotions?
Alors c'est ça l'objet de nos travaux, à l'échelle de tous les scientifiques qui s'intéressent aux émotions des animaux. C'est est-ce que tous les animaux expriment des émotions? Et je vais redire la même chose que pour animal, il faut définir ce mot. Et là, si je vous observe, je vais essayer d'interpréter en fait ce que vous ressentez. Je vais regarder vos visages, par exemple. Je vais voir des expressions de ces visages. J'ai appris que certaines expressions, on les interprétait comme certaines émotions. Je vous m'autorise à retirer mon masque 2 secondes. Qu'est-ce que je viens de faire ? Un sourire, c'est plutôt positif, mais en réalité, vous ne savez pas ce que je pense. Donc je peux aussi faire ça. Pourtant, ce que je ressens, c'est à peu près la même chose que l'instant d'avant. Et donc, si je vous demande à vous comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, vous allez me le dire. Je m'ennuie, je suis curieux, je suis triste, je suis en colère. Mais quand je vais travailler avec mes animaux, je vais les observer, mais je peux leur demander, mais je ne vais pas comprendre la réponse qu'ils vont me faire. Donc ça, c'est la première difficulté pour étudier les émotions. Et puis après, sur la question des capacités, c'est un petit peu difficile de savoir, parce qu'il y a quelques années, les animaux ont considéré qu'ils n'avaient pas d'émotions, même les enfants, tout petits, ont considéré qu'ils n'avaient pas mal. Donc la science, elle évolue, les connaissances évoluent. Et aujourd'hui, il y a une définition qui est acceptée par tous les chercheurs, qui est que l'émotion, c'est une réaction à un événement positif, négatif, qui va entraîner des modifications dans le corps, mais surtout qui naît, qui se crée dans le cerveau. Et le cerveau, c'est quoi ? C'est plein de cellules qui sont organisées, qui communiquent entre elles. Et s'il y a des neurones, c'est le nom de ces fameuses cellules, dans tout le règne animal, les insectes ont des neurones, vous en avez plein, eh bien, l'organisation de ces neurones ne se fait pas tout à fait de la même manière. Et donc, les émotions, pour qu'il y ait un processus mental, il faut qu'il y ait un cerveau, un encéphale complexe. Donc aujourd'hui, toute la communauté scientifique reconnaît qu'il y a des émotions chez les mammifères, les oiseaux, les poissons probablement, peut-être certaines capacités chez des insectes. On sait maintenant que les abeilles ont des capacités pour apprendre, reconnaître. Mais la question même des émotions, elle reste à explorer pour toutes ces espèces animales-là. Voilà.
Alors, parce que là, on dit des émotions, mais est-ce qu'on peut en dire plus ? Alors, c'est quoi ces émotions qu'on suppose possibles pour les animaux ?
Alors, la première émotion qui a été rapportée, c'est la peur. Elle est facile à interpréter, en fait, hein, parce que... alors là, vous êtes un peu petit, vous, mais les parents, vous avez dû entendre parler d'un monsieur célèbre qui s'appelle Charles Darwin, et qui était anglais, et qui, lui, a... proposer une théorie, la théorie de l'évolution, en expliquant que tout le règne vivant, donc là je vais au-delà des animaux, ont une capacité à s'adapter. Et en s'adaptant, ils évoluent. Je vous donne un exemple. Quand il a fait très 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 froid, eh bien seuls les organismes vivants qui ont résisté au froid ont survécu. Et donc ça a entraîné une évolution à ce moment-là. D'accord ? Eh bien la peur, c'est quelque chose qui est inscrit dans tout ce règne animal depuis fort longtemps, parce que ça permet de se protéger. Donc quand on est face à un danger, notre organisme va réagir, on va mobiliser des forces, de l'énergie, pour résister à cet événement, et donc ça va nous sauver. D'accord ? Donc la peur, on est aujourd'hui en capacité de dire qu'elle est présente dans la plupart du règne animal, parce qu'elle était indispensable, en fait, pour s'adapter. Il y a plus de questionnements sur les émotions que l'on dit positives. Quel était l'intérêt pour les animaux d'exprimer des émotions positives ? Ça, c'est encore un champ qui est en train d'être étudié.
D'ailleurs, on peut peut-être demander à nos scientifiques présents ici, puisqu'on, je crois que vous intéressez beaucoup aux sciences participatives, et donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'impression ou vu des animaux qui expriment des émotions. Donc là, je pense que vous aimez bien en plus que les gens participent. Donc est-ce que quelqu'un veut dire, est-ce que vous avez déjà vu un animal qui aurait des émotions, qui montre quelque chose ? Est-ce que quelqu'un veut raconter quelque chose ?
Est-ce que vous avez des animaux chez vous, par exemple ?
je vais aller avec mon... Est-ce que le... Peut-être, là, je vois quelqu'un qui parle. Est-ce que si je viens avec mon micro, on va profiter de ce qui est dit? On va essayer?
J'ai un petit ça.
Il a des émotions, il a peur ou il est content?
Alors, un chat. Bon, alors apparemment, un petit chat ici dans cette maison qui, des fois, a peur et des fois est content. Est-ce que d'autres personnes ont des animaux et veulent dire? Non?
Comment tu sais que ton petit chat est content? Est-ce qu'elle te fait des sourires? Elle vient à côté de toi? Elle ronronne. Les chats ronronnent. En fait, c'est compliqué le ronronnement. On ne sait pas très bien si c'est que des choses positives ou pas. Mais vous êtes capable de dire qu'elle est contente quand elle ronronne parce que vous vivez avec ce chat. Et que vous êtes en fait ses compagnons de vie. Et qu'à force de vivre avec ces animaux, vous avez commencé à communiquer avec cet animal. Moi, je suis certaine que si on remue le sac de croquettes, eh ben, le chat, il arrive en courant. Et que probablement, il est impatient, peut-être des fois frustré, et probablement satisfait, donc content qu'on lui donne de la nourriture. Donc en fait, les animaux avec lesquels on vit au quotidien, on crée une communication, et cette communication, elle se sert aussi des émotions. Alors je crois que par là, il y avait aussi un commentaire, peut-être non ?
Le chien de mes grands-parents, il remue la queue quand il est content.
Et est-ce que tu sais, est-ce que tu pourrais dire que des fois, il n'est pas content?
Quand il grogne.
Ouais. Et tu crois que c'est quoi ça, quand il grogne?
Bah, quand il en a marre ou quand il y a un autre animal qu'il n'aime pas.
Ouais, du coup, c'est plutôt de la colère, là, de l'agressivité.
Oui.
Et est-ce qu'il y a d'autres émotions que tu pourrais identifier? Est-ce que des fois, ce chien, il fait des bêtises?
Non.
Non, bon. Parce qu'il y a des chiens, quand ils ont fait une bêtise, en fait, les maîtres sont capables de s'en rendre compte parce que le comportement du chien va être aussi un peu différent. Il va s'abaisser, il va vraiment, on dit frôler les murs pour les êtres humains, bah, lui, il va raser le sol. Puis tu en as qui vont même aller se cacher. Tout ça, on est capable de l'interpréter, de dire « Ah, ça, c'est peut-être telle et telle émotion », parce qu'on les connaît, en fait, ces animaux-là. Mais si je vous demande « Est-ce que vous avez déjà vu un mouton heureux ?» Alors, ça m'intéresse. Je vous écoute. Voilà. Voilà, en fait, c'est un mouton qui a appris à exprimer ce qu'il ressentait de façon à être compris aussi par son environnement social. Et là, en l'occurrence, un attachement très très fort à la personne avec laquelle il vit. Ouais. Donc oui.
Mais alors, ça veut dire que ces animaux-là, est-ce qu'ils ont appris à montrer des émotions pour communiquer avec des humains?
J'ai pas la réponse, mais ça fait partie des hypothèses que l'on a. En fait, quand on compare des animaux élevés avec des congénères de même espèce, par exemple, ils vont apprendre le langage, la communication. C'est très, très étudié chez les oiseaux, parce que là, il y a vraiment des mécanismes extrêmement étudiés. Mais on le sait aussi maintenant chez nos espèces d'animaux domestiques qu'ils apprennent à se reconnaître. Il y a un lien qui se crée entre la maman et ses petits, par exemple. Et donc, des animaux qui ne sont pas élevés dans le même contexte ou qui sont élevés avec d'autres espèces animales ne vont pas avoir les mêmes codes, les mêmes langages. Et donc, je ne sais pas s'ils apprennent de nouvelles manières de faire, mais en tout cas, les animaux avec lesquels on vit apprennent en fonction de nous.
Ou alors, est-ce que de dire l'animal comprend, si je fais telle chose, ça fait faire telle chose aux humains. Est-ce qu'on parle souvent du super pouvoir des chats ?
Moi, j'étudie que les moutons. Ils ont aussi des super pouvoirs, probablement. Je ne les ai pas encore trouvés. Alors, je ne sais pas si on peut... C'est compliqué, en fait, parce que même pour les êtres humains, globalement, on a des idées sur les phénomènes qui se produisent dans le développement, dans les interactions sociales, mais on n'a pas tous les mêmes cultures, on n'a pas tous les mêmes codes. Et donc, est-ce que je sais que je peux réagir de telle manière pour obtenir ce que je veux ? À la longue, oui. Et les animaux ont cette capacité à interpréter les informations qu'ils reçoivent. Donc les animaux avec lesquels on vit, quand on entend, quand le sac de croquettes remue la première fois, qu'on lui donne des croquettes, la deuxième, la troisième, à la quatrième, il réagit parce qu'il a associé les informations. Et donc un animal qui fait une bêtise, qui se fait, qui se prend une tape ou qui se fait sermonner, gronder par son maître, va apprendre que ce qu'il a fait à ce moment-là n'est pas bien, c'est négatif. C'est un peu les punitions qu'il peut y avoir au quotidien. Un petit qui va voir sa mère à un moment qui n'est pas opportun, on peut voir les femelles repousser le petit. Nous, on le voit avec les moutons, par exemple. Donc, toutes ces informations-là, l'animal les traite, les apprend, et ça fait évoluer ou non son comportement. Donc, cette communication qui se met en place entre les animaux d'une même espèce, entre animaux d'espèces différentes, et nous sommes des animaux d'autres espèces, ça marche, je dirais, quel que soit l'interlocuteur que l'animal a. Un animal qui serait élevé seul est un animal qui va déprimer, notamment si c'est un animal social.
Donc on a un chat qui ronronne, un chien qui grogne et qui remue la queue, et un mouton qui monte sur la table. Ah, je vais tendre le micro à madame.
En fait, il reproduit le comportement du chien avec lequel il a été élevé aussi. Donc il y a une fonction de mimétisme comme ça. Et est-ce que ça signifie qu'il a des émotions ou est-ce qu'il est dans la reproduction ? C'est... Comme vous exprimiez tout à l'heure, vous souriez, mais est-ce qu'intérieurement, vous avez une émotion positive ? On n'a pas la possibilité de le voir. Donc, est-ce que ça doit être la même chose pour les animaux, j'imagine ?
En fait, c'est on espère que... Alors, les animaux avec lesquels on vit, c'est plus difficile, parce qu'on leur a appris, entre guillemets, nos codes sociaux. Mais on espère que la part culturelle, sociétale, éducative qui existe dans notre société humaine n'est pas aussi forte chez les animaux et que ce que l'animal exprime est relativement proche de ce qu'il ressent. C'est une hypothèse, hein, on n'a pas de preuve de ça. Parce que nous, là, la petite école, je ne sais pas si c'est votre première expérience, mais vous allez recevoir en cours d'année un tableau et puis il y aura maîtrise des émotions. L'enfant maîtrise-t-il ses émotions ? Est-il capable de bien exprimer Donc, on éduque aussi les émotions. Et donc, quand un bébé vient de boire et qu'il est tout détendu, souriant, nous-mêmes, on va renvoyer un sourire. Donc, toute cette codification de l'expression des émotions, on la transmet à nos enfants. Elle est probablement aussi existante dans le règne animal non humain, mais sans ce poids culturel. Il y a des cultures où on ne montre pas ce que l'on ressent, parce que c'est considéré comme étant incorrect. Et nous, on est plutôt dans une culture où il est important d'être plutôt souriant, d'envoyer des choses positives. Donc cette influence-là, on espère qu'elle est moins forte chez les animaux que l'on étudie, que chez l'être humain. L'être humain est capable de mentir, en fait. Hein, et quand on veut étudier les émotions, on passe souvent par des questionnaires. On va demander aux gens, est-ce que c'était une image qui vous plaisait ? Est-ce que c'était positif ? Des fois, on ne va pas oser dire que ça nous a fait marrer de voir quelqu'un en souffrance sur une image. Hein, quelqu'un qui tombe dans un trou, on peut trouver ça rigolo. Pourtant, la personne qui est tombée dans le trou, elle n'était pas super heureuse. Donc voilà, c'est ce poids éducatif qui va vraiment influencer nos expressions. Et heureusement qu'on les maîtrise, hein, ces expressions, parce que sinon, on aurait du mal aussi à vivre en société. Mais chez les animaux, on espère que cette influence-là est moins forte, moins présente, et du coup, que ce que l'on observe est relativement proche de ce qu'ils ressentent. Mais c'est un pari.
Et alors, si on dit que les animaux peuvent apprendre des humains, est-ce que l'inverse est vrai aussi ? Est-ce que les animaux peuvent apprendre des choses aux humains, alors, inversement ?
Oui, puisque... les petits êtres humains qui sont avec nous aujourd'hui sont capables de reconnaître les émotions de leurs petits chats. Donc, on apprend, si de cette manière-là, on peut considérer qu'ils ont appris à mieux comprendre leurs animaux. Alors après, il faut faire attention, parce que des fois, on comprend ce qu'on a envie de voir. Oula. On peut un peu se tromper. Maintenant, personnellement, en biologie, on a beaucoup, beaucoup à apprendre des animaux en les observant, en comparant aussi leur manière de percevoir, de traiter les informations et de comparer un petit peu le fonctionnement humain. Et par exemple, en anatomie, je reviens à ça, hein, parce que c'est un peu par là que je suis rentrée dans le cerveau, par l'anatomie, comparer l'organisation du cerveau de plusieurs espèces animales, comparer comment ce cerveau s'organise, là on aura beaucoup beaucoup à apprendre et on aurait même à apprendre du comportement. Je me permets de faire un tout petit peu de publicité, mais il y a dans le cadre de la fête de la science, il y a un ciné-débat qui est organisé autour des démocraties animales. Et c'est une façon d'interpréter le comportement des animaux qui est intéressante, parce qu'on change un petit peu notre angle de vue et finalement on se dit mais ces choix démocratiques existent aussi dans le règne animal. Donc voilà, là oui, je pense qu'on a à apprendre des animaux.
Je me tourne vers le public. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a envie de poser... des questions à notre invitée Élodie Chaillou. Je vois que les gens se regardent.
Alors, qu'est-ce que je vois comme émotion ? Un peu de timidité ?
Oui. Peut-être, est-ce que si je vais avec mon micro par là, il y aura une question ? Ah, je vois une dame là-bas.
Ma fille avait une affection particulière pour les chevaux et pourtant elle est tombée et s'est retrouvée à l'hôpital à deux reprises. Hein. Donc je voulais savoir s'il pouvait y avoir une réaction négative de la part de l'animal alors que c'était pas... Enfin, je pense pas qu'elle avait de mauvaises intentions. C'est tout.
Alors, je vais évidemment pas forcément bien répondre parce que tout dépend du contexte, mais si le cheval a eu une réaction inhabituelle qui a causé la chute du cavalier, enfin de la cavalière, ce n'était pas nécessairement dirigé contre elle, parce que peut-être que l'animal a eu cette réaction de peur. Face à un événement soudain, typiquement il a eu une réaction à quelque chose. Maintenant, c'est comment, après cette chute, la cavalière a ou non évolué par rapport à cette passion, à cet amour pour les chevaux. Parce que souvent, nous, êtres humains, et ça existe aussi chez les animaux, un événement violent avec des conséquences graves, en fait, peut laisser ce qu'on appelle un traumatisme. Et donc, on peut, à un moment donné, ne plus du tout vouloir monter à cheval. Moi, je me suis fait mordre par un chien, j'ai peur des chiens depuis. Voilà. Un événement qui ne se reproduirait peut-être jamais, peut avoir des conséquences à très 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 long terme chez l'être humain. Et ça, on sait aussi que ça peut exister chez l'animal. Il y a des cas de traumatisme qui ont été décrits aussi chez les animaux, en particulier les chevaux.
Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Super.
Bonjour. Moi, ce serait concernant les émotions positives. Même si bah, y a pas de réponse concrète, est-ce qu'il y a des éléments de réponse, des pistes pour savoir quel serait l'intérêt pour un animal sauvage de ressentir des émotions positives en fait ? Est-ce que c'est vrai que ça le sauve pas particulièrement de la situation ou quoi ?
Voilà. Ouais. Alors, je pense qu'ils vont. Moi, je la poserai un petit peu différemment la question, pas en termes de ressenti, mais en termes d'expression. Et c'est une question souvent que je pose aux étudiants, je donne un petit peu de cours, et on comprend d'un point de vue évolutif l'intérêt, notamment pour des animaux qui vivent en groupe comme des herbivores, hein, des antilopes, des choses comme ça, on comprend l'intérêt de dire aux autres, faites gaffe, il y a un danger, parce que c'est le groupe qui va sauver l'individu, d'accord ? Mais dire aux autres, oh, j'ai trouvé une super source de nourriture, mais il n'y en a pas beaucoup, donc je n'ai pas envie de la partager. Alors, je fais ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Hein. Certains diront qu'on ne doit pas faire d'anthropomorphisme. Je pense que des fois, ça peut aider quand même. Donc, cette question de l'intérêt d'exprimer, elle peut se poser, mais dans certains contextes, dans d'autres, notamment dans la relation sociale, d'une mère et de son petit, ou d'un groupe d'individus, les sociétés qui vivent entre femelles, par exemple, là, ça peut être important de renvoyer des émotions positives, ne serait-ce que pour maintenir la cohésion dans le groupe, par exemple. Mais en fait, quand on a commencé à vouloir étudier les émotions positives, on a essayé de trouver des contextes expérimentaux dans lesquels les animaux seraient bien. Du coup, qu'ils exprimeraient à ce moment-là des choses positives et qu'on soit capable de dire « Ah oui, tiens, là, on voit que les oreilles, elles sont posées comme ci, l'œil, il est comme ça, la face, elle est de telle... » Voilà, des indices, en fait, qui nous permettent de dire « Ah oui, là, c'est positif, là, ça ne l'est pas. » Et bah, on n'est pas forcément très, très imaginatif, des fois, dans la recherche. Et on se dit « Un truc positif, c'est la nourriture. » Sauf que c'est peut-être pas le meilleur levier, le meilleur moyen d'entraîner ce type d'expression positive. Et donc, dans l'équipe dans laquelle je suis, il y a des travaux qui s'intéressent à ces expressions faciales, plutôt chez l'oiseau, positives. Et c'est pas sur un contexte alimentaire qu'elles sont étudiées, mais dans un contexte social. Donc, l'animal fait des activités qu'il aime faire avec des interlocuteurs qui sont des êtres humains. Et donc là, on voit des choses qui s'expriment, qui semblent être que nous associons à des émotions positives. Mais oui, là, en fait, on essaie toujours de pour l'organisme, encore une fois, au sens organisme biologique vivant, quel est l'intérêt de faire ce que l'organisme fait. Voilà, on cherche toujours un intérêt à la survie, en fait.
Alors moi, je vais en poser une, parce que à propos de chiens, il y a aussi des fois des super chiens. Donc les super chiens, je veux dire, par exemple, les chiens guides d'aveugles, ou alors les chiens policiers. Donc ça, c'est des animaux auxquels on a appris, on a donné des compétences particulières. Donc eux, comment ils expriment des émotions ? Est-ce qu'ils arrivent à les cacher ?
C'est une excellente question, et... Je connais pas suffisamment la littérature scientifique là pour faire une réponse, correcte, c'est pas le bon terme, en tout cas très poussée. Mais je ne sais pas comment ils expriment ou non leurs émotions. Mais ce qui est certain, c'est que notamment les chiens de policiers, pour éviter qu'ils aient peur dans le cadre d'intervention, on les habitue. À des contextes extrêmement bruyants, des coups de feu par exemple, ou des bruits proches de sirènes, pour qu'un animal qui serait peureux ne soit pas entraîné à reconnaître des odeurs de drogue, des choses comme ça, et qu'en intervention, il ait peur. C'est un petit peu tous les chiens qui travaillent comme ça pour l'être humain. Il va falloir, avant de les entraîner, de leur apprendre la tâche pour laquelle ils vont travailler, il faut s'assurer qu'ils n'auront pas peur. Donc, la question de l'émotion pour les chiens guides, je pense qu'on peut la poser pour n'importe quel animal de compagnie, si ce n'est que cet animal-là a appris à réagir à des informations de l'environnement qui sont beaucoup plus spécifiques et précises, savoir traverser, éviter les obstacles, aller chercher un objet, voilà. Des choses qu'un animal de compagnie n'aura pas nécessairement appris, parce qu'il n'y a pas de besoin pour l'être humain avec lequel il vit. Mais,
Alors on peut penser aussi aux animaux comédiens, entre guillemets, parce qu'on a dans le spectacle, donc ça, le cinéma ou le cirque, il y a des animaux qui là pour le coup, enfin en tout cas, ont appris à jouer peut-être diverses émotions, à des comportements humains, disons. Donc comment ça se passe pour ces animaux-là ?
Alors ça, c'est un milieu qui évolue beaucoup, de par la législation, de par la pression de la société aussi, hein, parce que si vous regardez des documentaires qui datent maintenant de 30 ou 50 ans, la manière, on ne parlait pas d'entraîner un animal, ni d'éduquer un animal, on parlait de le dresser. Et donc on était sur des modes plutôt punitifs, et donc la punition, elle pouvait être associée à des actes de douleur. Si je me permets de faire un parallèle avec notre modèle d'être humain, nos grands-parents prenaient des fessées, voilà, parce qu'ils avaient fait une bêtise. Aujourd'hui, on est convaincu qu'on peut éduquer autrement. Ben, voilà, là, c'est franchement des transmissions de façon de faire que l'on voit. Et aujourd'hui, l'animal, pour lui apprendre, on va plutôt lui renvoyer des renforcements, on dit renforcements positifs. Et dans le monde du spectacle, alors je ne sais pas pour tout ce qui est mimé, des émotions ou des comportements, je ne sais pas par quelle méthode les dresseurs travaillent. Ce qui est plus sûr maintenant, c'est que ces pratiques sont aussi mises en œuvre dans le cadre de l'élevage, de l'expérimentation animale, mais aussi des zooparcs. Et on a la chance de collaborer avec le zooparc de Beauval, où ils mettent vraiment en place cet entraînement. Donc ils apprennent les animaux à venir se faire examiner avec une petite récompense. Alors ça peut être une ressource alimentaire, mais ça peut être aussi un contact, des caresses, des choses comme ça. Et ces approches-là ont été mises en place dans le monde du cheval. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et puis nous, même en élevage ou en expérimentation, si on est amené à faire des prises de sang, par exemple, on va apprendre à l'animal à venir. Et il ne verra plus cet acte comme un acte douloureux ou il n'en aura plus peur, en fait. Donc, toutes ces approches d'entraînement, c'est toujours sous le coup de la récompense. Et tous les travaux qui sont menés pour étudier plutôt les capacités d'apprentissage, de mémoire des animaux, beaucoup de chercheurs attendent que l'animal vienne. En fait, c'est devenu un jeu pour l'animal. Et si vous avez la chance de vous promener dans des parcs, de plus en plus, vous verrez des cachettes, en fait, pour que l'animal ait de la motivation à chercher de la nourriture ou à jouer dans son environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu. Et plus on enrichit ce milieu en le rendant compliqué, avec des énigmes à résoudre, eh bien, aujourd'hui, les travaux laissent penser que ces animaux-là sont dans un état de bien-être plus important que des animaux qui seraient juste dans un enclos avec peu d'enrichissement.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour notre invité ? Monsieur ? Non ? Non. Je regarde derrière le poteau, là, non plus.
Je vois que ça prend des notes, en tout cas.
Voilà. Bon, alors, si on résume, finalement, parce que la question de départ, c'était les animaux ont-ils des émotions ? Donc, du coup, est-ce qu'on a une réponse à cette question, avec tout ce que vous avez pu déjà nous dire.
Est-ce que j'ai répondu à cette question ? Oui. Mais est-ce que tous les animaux ont des émotions ? Et on se donne rendez-vous dans quelques années. En tout cas, il vaut mieux considérer qu'ils en ont, peut-être, plutôt que de partir du postulat qu'ils n'en ont pas. Et c'est peut-être un petit peu le biais que beaucoup de chercheurs ont eu pour étudier les animaux, de partir de ce qu'ils n'avaient pas, plutôt que d'essayer de montrer qu'ils avaient.
Mais du coup, ça rend la recherche peut-être plus compliquée.
Ça, c'est certain. Surtout quand il faut chercher des sous.
En plus. Et alors, si on veut justement regarder vos travaux, si on veut lire vos articles, où est-ce qu'on peut trouver votre travail ?
Alors, hélas, non, faut pas que je dise ça comme ça, on coupera.
On coupera.
Ça fait partie des gros questionnements aujourd'hui dans la recherche. Et le Covid a beaucoup participé à ce questionnement. Comment faire pour avoir accès à l'information, aux travaux de recherche ? La langue internationale de la publication, c'est l'anglais. Et nous sommes francophones, même si aujourd'hui, on parle de mieux en mieux et de plus en plus couramment l'anglais. Accéder à l'anglais scientifique, c'est très compliqué. Moi, vous pouvez me donner un article de sciences physiques, je ne vais rien y comprendre, même s'il est en français d'ailleurs. Donc, cette première barrière de la langue est un peu compliquée parce que finalement, nos travaux de recherche, on les publie à 90% en anglais. Et donc, ils sont publiés dans des journaux payants. Et si vous voulez accéder à un article, ça peut coûter une cinquantaine de dollars. Et aujourd'hui, il y a un effort qui est fait, et c'est les financeurs qui l'imposent aussi, qui est de publier, on dit, en open access, en accès libre. Et dans ce cas-là, ces articles peuvent être, vous tapez mon nom, émotion, alors en anglais, SHIP, par exemple, et vous allez trouver des articles. Et puis, personnellement, j'essaie de faire un effort aussi. Donc, il y a quelques publications en français. Et il y a INRAE pour cela, mais aussi maintenant le CNRS, ont des journaux où on peut publier en français. Alors, malgré tout, pour que ces journaux aient un impact, certains articles sont traduits en anglais, mais je fais partie du bureau éditorial pour INRAE Production Animale, par exemple, et on tient à maintenir cette publication en français pour donner la possibilité aux nos anglophones et non scientifiques d'accéder à ces publications. Et puis, je vais faire un peu de pub parce qu'on est à la fête de la science, mais il y a aussi Écoscience qui peut être une excellente ressource pour accéder à de l'information. Et aujourd'hui, il y a quand même un élan pour la médiation scientifique, la culture scientifique. Donc vous pouvez trouver quand même beaucoup d'associations. Il y a Arborescience, je crois, qui est là. Vous pouvez vous abonner à la Six Citoyennes, qui est aussi un support pour accéder à de l'information scientifique. Alors, de qualité, quand je dis ça, c'est certaine. Évitez d'aller sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. En émotion des animaux, c'est vraiment un exemple facile. Si vous avez pu suivre, alors c'est des extraits de vidéos, YouTube, Facebook, c'est un petit rat qu'on voit se doucher. Et donc le commentaire, c'est « Ah, il prend une douche !» Alors en fait, il ne prend pas du tout une douche, c'est un animal sur lequel il y a eu une espèce de gel douche, et ce n'est pas du tout agréable pour l'animal, et en fait, on le voit, il se débat pour essayer de retirer ce produit. Donc, une image, une vidéo, on peut l'interpréter comme on veut, surtout quand on n'a pas eu le début et qu'on n'a pas eu la fin. Un exemple qui a été repris, je crois que c'est France Info qui veut essayer de dénoncer un petit peu ces abus d'interprétation. Et vous voyez un hérisson qui traverse une rue, une route, avec une corneille qui le pique. Et la personne qui a filmé a mis comme commentaire « Oh, la corneille, elle sauve la vie du hérisson ». En fait, non. Un hérisson qui se promène en plein jour, c'est déjà pas très normal. C'est qu'il était peut-être pas en très bonne santé. Et en fait, le hérisson, c'est quand même une proie rêvée pour une corneille. Et trouver un hérisson en plein jour, c'est le jackpot. Donc la corneille, elle pousse le hérisson, mais c'est pour mieux le manger et l'achever, en fait, sur le bord de la route. Donc l'image, l'interprétation, ça, faut éviter. Donc essayez toujours d'aller chercher... Je dévie un peu de la question de mes travaux de recherche, mais il y a un effort à faire du côté des chercheurs probablement pour mieux communiquer leurs travaux à la société. Mais il y a aussi un effort de la société à aller chercher différentes sources d'informations. Nous-mêmes, dans nos travaux, on n'a pas tous la même opinion, on n'a pas tous les mêmes hypothèses à défendre. Donc n'orientez pas vos lectures toujours dans la même direction. Aller voir un peu ce que d'autres chercheurs vont dire, parce que c'est ça aussi qui va nourrir la controverse. Heureusement qu'on a fait évoluer nos mentalités, enfin, que les recherches ont évolué avec nos mentalités, parce que on aurait fait nettement moins de progrès.
Donc ça veut dire que tous les chercheurs ne sont pas d'accord, et tant mieux ?
Je pense, oui. Et l'étape d'après, c'est nous ne sommes pas d'accord, mais essayons de discuter ensemble pour trouver le bon trajet, la bonne hypothèse à démontrer.
Et alors, moi, j'ai une question. À votre avis, comment ça peut s'articuler, donc, tout le travail que vous faites en tant que chercheur, et puis le souci que vous avez donc, de communiquer votre travail à tous les publics, et les journalistes, alors à quoi ils peuvent servir là-dedans, les journalistes? Peut-être à rien. comment ça peut s'articuler, ça?
Alors moi, j'ai un rêve. En fait, j'ai eu la chance, grâce à l'Association des journalistes scientifiques, on est plusieurs à avoir bénéficié de cela dans notre unité de recherche, mais aussi à INRAE. Il y a des stages d'échange. Donc en tant que chercheur, on a la possibilité d'aller dans une rédaction, presse écrite, télé, enfin n'importe quel média scientifique. Et on reçoit à notre tour un ou une journaliste plutôt scientifique. Et de côtoyer, j'ai eu la chance d'être dans la rédaction d'une émission de France 5, le journal de la santé. Et j'ai compris quelle était la pression que les journalistes subissaient. Et ils ont une pression, on pourrait très bien... ça a été un peu la conclusion de ce stage, c'est qu'ils ont la pression du mot efficace, rapide, mais vous me direz si j'ai raison ou pas, l'info doit être rapide, facile, accessible. Et donc il y a des formats, en tout cas télé, où c'est très chronométré, et donc c'est 30 secondes, et pas 31 et pas 29. Et trouver la bonne illustration qui colle avec le bon mot. Enfin, il y a tout un travail de cohérence à faire entre le visuel et ce qui va être dit. J'ai appris comment on pouvait aussi manipuler les propos. Et sachez qu'un masque, c'est rêvé pour les journalistes images, parce que vous pouvez faire dire n'importe quoi à quelqu'un qui est masqué. Ça, je l'ai découvert, par exemple, au cours de ces stages. Et à l'inverse, je pense qu'un journaliste va, en côtoyant un chercheur pendant quelques jours, comprendre que on a une pression financière. Il faut trouver de l'argent pour avancer dans nos travaux. Il faut mettre en place, dans nos cas, l'expérimentation. Et là, on a un autre type de pression. Enfin, donc, déjà, si on était en capacité de comprendre le métier de l'un et de l'autre, ce serait la première étape. Et ensuite, pour moi, il y a vraiment un travail main dans la main à faire. Alors, il y a des belles émissions aujourd'hui, hein, qui permettent de s'appuyer sur les connaissances que les journalistes scientifiques ont, cette vision assez globale qu'ils peuvent avoir de la science, et puis ponctuellement d'avoir un scientifique qui peut les épauler, les accompagner. Et puis, voilà, moi, ce vers quoi je trouve on pourrait tendre, c'est des duos, par exemple, dans le cadre d'événements plus publics, où l'activité, la recherche et le travail de journaliste pourraient être un peu mieux expliqués au grand public. Voilà. Mais je pense que c'est extrêmement complémentaire. Et moi, je vois bien la chaîne où on va avoir le journaliste, des médiateurs scientifiques. Il faut des chercheurs parce que comprendre la science, pour comprendre la science, il faut comprendre aussi la démarche de la recherche. Et puis, à partir de là, je pense qu'on aura bouclé la boucle pour bien informer et bien communiquer au grand public. Et le grand public peut faire avancer nos travaux de recherche par les questions et les observations qu'ils font, surtout pour les émotions.
Eh bien, merci. Je me tourne une dernière fois vers notre nombreux public motivé et enthousiaste pour savoir s'il y a une ultime question à notre invité. Ah, super.
Bonjour, je voulais savoir en fait pourquoi vous avez choisi les moutons comme sujet d'étude, du coup.
Pardon. Excellente question. Ça, c'est les hasards ou les circonstances de nos vies professionnelles. Il y a des opportunités, on va dire, expérimentales quelque part. C'est-à-dire que le choix d'aller travailler chez le mouton, c'est parce que c'était un des modèles animaux dont on connaissait finalement le mieux l'organisation et le fonctionnement de certaines zones du cerveau. Et les travaux qui ont été initiés à l'INRA, pour si je fais un petit peu l'historique, le mouton sert à produire de la viande et du lait, qui sert à produire du fromage. Et la demande des consommateurs, c'est de pouvoir manger du fromage toute l'année, sauf que les moutons, ce sont ce qu'on appelle des animaux saisonnés. Et donc, ils ne se reproduisent normalement, s'ils étaient dans la nature, qu'à un certain moment. Et pour satisfaire une continuité de production, les premiers travaux de biologie ont eu lieu et ils se sont intéressés à la reproduction. Et on a compris que la reproduction, c'était pas que des organes sexuels, il fallait remonter aussi aux hormones, et puis que finalement les hormones, elles étaient aussi contrôlées par ce qui se passait dans une zone du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et donc les premiers travaux, on dit d'endocrinologie, qui s'intéressent aux hormones, et de neuroendocrinologie, ont vraiment étudié cet axe-là. Et puis, ok, on comprend, on peut améliorer, on peut faire en sorte que les animaux se reproduisent toute l'année, sauf qu'en se reproduisant, ils font des bébés. Et là, on se rend compte aussi que le comportement de la mère, la relation entre la mère et le petit, c'est important. La relation entre la femelle et le mâle, c'est important. Donc, d'une question qui était très mécanique, très biologique, on est arrivé à des questionnements qui étaient plus liés aux comportements sociaux. Et donc, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai été recrutée dans cette équipe de recherche, les études portaient vraiment sur ces interactions sociales du mouton, où il y avait des expressions d'émotions. Il y avait des travaux qui étaient menés aussi chez le porcelet, mais dans un cadre un peu plus lié aux conditions d'élevage. Et puis, il y avait des travaux aussi chez un modèle d'oiseau, qui est la caille. Donc, tout ce questionnement sur les émotions et comment le cerveau intervient dans la genèse, dans la création de ces émotions, ça a vraiment pris corps dans les années 2000. Et quand moi je suis arrivée dans cette équipe en 2004, mon expertise, elle était plutôt sur le cerveau des moutons. Donc c'est un peu comme ça que les choses sont arrivées, se sont faites. Et le mouton, c'est un animal qui est extrêmement social. Et la chose la plus violente pour lui en termes psychologiques, en fait, c'est d'être séparé de son groupe. Donc avoir un mouton seul, c'est vraiment une... Enfin, tous les animaux sociaux, les avoir seuls, c'est une aberration. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à étudier le mouton. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à des structures bien particulières et j'essaie de comprendre comment cette structure s'organise selon les modèles animaux, selon les espèces animales et en fonction un peu de leur écologie comportementale. Voilà.
Je vois des hochements de tête. Mais eh bien, si plus personne n'a de questions, voilà, il nous reste à remercier beaucoup. Élodie Chailloux, merci à vous d'avoir consacré ce temps à cet échange.
Merci à vous de l'invitation, mais surtout merci de vos questions et de vos observations, parce qu'encore une fois, elles peuvent vraiment nourrir nos chemins de pensée lorsqu'on pose nos questions de recherche. Donc merci à vous.